Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Nous avons commencé une série il y a 2 semaines de cela que j'ai intitulée « Les 5 raisons pour lesquelles nous n'entrons pas dans la terre promise ». Pour quelles raisons est-ce que le peuple de Dieu a tellement de mal à vivre ce que Dieu a pour lui? Il n'est pas normal ce matin que vous et moi nous continuions à vivre chaque semaine, semaine après semaine, dans un conflit permanent, avec des problèmes continuels, en se disant « je n'y arriverai pas ». On a vu qu'il y avait 5 poisons ou 5 échecs à surmonter. On a vu que s'il y avait la moindre tendance dans notre cœur, dans notre vie, nous pourrions mourir devant la terre promise. On a vu ensemble que le premier grand défaut qu'il faut éradiquer rapidement dans la vie d'un chrétien, c'est la paresse. Et la paresse tue tout le monde. La paresse, l'avenir de la paresse, c'est le néant total. Celui qui est paresseux ne pourra pas vivre le plan de Dieu. La deuxième chose qu'on a vu ensemble, c'est avoir une attente irréaliste. C'est-à-dire croire que c'est le rêve de Dieu, penser que c'est le rêve de Dieu, mais ce n'est pas le rêve de Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont des grands rêves, mais ce n'est pas le plan de Dieu, ou leur rêve est tout simplement quelque chose comme une chimère, une utopie, une espèce d'image qu'on ne peut pas définir. Et on a vu que c'est l'un des grands problèmes d'un chrétien, c'est d'avoir des grands rêves sur la comète, mais sans jamais avoir de stratégie précise, sans jamais penser à ce que Dieu voulait faire. On a vu ensemble que le rêve de Dieu nourrissait tellement ton âme qu'il te donne de l'énergie, qu'il te donne de la force, qu'il te donne de la passion. Quand c'est un rêve de la part de Dieu, son rêve nourrit ton âme. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Celui ou celle qui fait la volonté du Père a une nourriture. La troisième chose qu'on a vu ensemble rapidement, Église, c'est le troisième poison dans votre vie ou dans la mienne, s'appelle la nonchalance. C'est-à-dire que tu sors de ton lit et tu te bouges un peu, tu te reconnectes au rêve de Dieu, mais tu commences à le faire sans passion. Venir à l'Église sans passion. Servir les pauvres sans passion. Prier sans passion. Et ça s'appelle la nonchalance. C'est un esprit que Dieu n'aime pas du tout. Dieu n'aime pas ce genre d'esprit-là. Où tu te lèves et il faut t'obliger à faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. La nonchalance est éradiquée en se reconnectant au cœur de Dieu. Le quatrième point qu'on a vu ensemble, c'était le confort matériel. C'est-à-dire être prisonnier de ce que l'on possède. Ce n'est pas mal d'avoir des possessions, ce n'est pas mal d'avoir de l'argent. Ce qui est mal, c'est être possédé par l'argent. On a vu ensemble que si je n'arrive pas à faire le plan de Dieu, parce que je n'arrive pas à sortir de mon confort est devenu une prison, mon confort est devenu un lit d'hôpital, mon confort est devenu un cercueil. Et trop de chrétiens sont incapables de vivre le plan de Dieu parce qu'ils aiment trop le confort. Et nous voulons sortir du confort, nous voulons jouir des moments où Dieu nous bénit et nous voulons apprécier les moments où Dieu ne nous bénit pas. Il y a des saisons dans notre vie chrétienne où Dieu, pour une raison que j'ignore, ne nous bénira pas comme nous le voulons. Il ne nous bénira pas de toute façon pour une saison, ça peut arriver. Parlez-en à Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Il a prié en disant « Seigneur, Père, enlève cette coupe, mais pas ma volonté, la tienne. » C'est un moment douloureux à vivre. Le danger des chrétiens, c'est de croire que si on n'est pas béni, Dieu ne nous aime pas. C'est faux. Parfois, l'absence de don de la part de Dieu est une preuve de son amour. C'est comme vous et moi, en tant que bon papa et bonne maman, un bon père, une bonne mère, sait priver son enfant à la bonne saison, au bon moment, pour donner une bonne leçon, parce qu'il a besoin de caractère plus de cadeaux. Et si le cadeau prive l'enfant de caractère, alors le cadeau est un poison. Alors parfois Dieu va faire une chose comme ça, il va priver ses enfants qu'il aime pour quelques minutes, quelques semaines, quelques heures, quelques mois pour voir ce qu'il y a dans le cœur. Il est important ce matin d'être attentif à la parole de Dieu. En parlant mes amis, je vous aime de tout mon cœur, je suis en train d'avoir des face à face avec Dieu. Je ne joue plus, je veux vous encourager à comprendre qu'il y a une nation à gagner. Vous avez la puissance de Christ en vous pour faire la différence dans cette île et en France. Et Dieu déclare ce matin à son Église que lui, il est prêt à aller de l'avant, qu'il aime le suivre et qu'il aime payer le prix. Et mon cinquième obstacle ce matin, je finirai cette série. Cinquième poison dans votre vie, Église. Cinquième chose qui pourrait vous empêcher de vivre le plan que Dieu a pour vous est le suivant. Accepter un rapport négatif. Accepter un rapport négatif. On va lire ensemble ce matin un passage dans Nombre 13. Écoutez bien ça. Il est prouvé aujourd'hui que la plupart d'entre nous, nous vivons dans une atmosphère négative. Des mauvaises nouvelles à la télévision, des mauvaises nouvelles à la radio, des mauvaises nouvelles dans la famille, des mauvaises nouvelles partout. Et il semble que continuellement, les journaux soient payés pour envoyer des mauvaises nouvelles. Et il paraît qu'on vend mieux, plus c'est mauvais, plus on vend. Et donc le chrétien que nous sommes, les chrétiens, nous vivons dans ce genre d'atmosphère continuelle. Nous avons l'impression que rien ne va fonctionner et nous attendons qu'une seule chose, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Que votre cœur ne se trouble pas. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu n'as pas de joie, vérifie ta connexion avec Dieu. Celui ou celle qui passe du temps avec Dieu est forcément rempli de joie. Quelque chose se passe quand quelqu'un accepte le rapport de Dieu. Écoutez bien ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'autruche et ne plus écouter les nouvelles. Je suis en train de vous dire une chose importante. Écoutez bien ça, mon ami, ce matin. La même nouvelle dans la bouche d'une personne positive n'aura pas le même impact que la même nouvelle dans la bouche d'une personne négative. Il est facile de savoir comment si la personne t'aime ou pas. Si quelqu'un balance une parole négative avec un esprit négatif, mon ami, tu es détruit. Mais si quelqu'un peut te dire une nouvelle vraie qui est négative, mais avec un esprit positif, la nouvelle est différente. La même information qui vient d'une source différente. La première chose que tu dois faire avant de croire à n'importe quelle information, c'est de vérifier la source. Les gendarmes te le diront, les officiers judiciaires te le diront, les juges te le diront, les avocats te le diront, toute personne censée te le dira. Avant de mettre un jugement, vérifie la source. Avant de croire quelque chose, vérifie la source. Qui est la personne qui me parle? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce qu'elle veut le mieux, le meilleur pour ma vie? Est-ce qu'elle est proche de Dieu? Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle est en feu pour Dieu? Là, tu sais que même si la nouvelle n'est pas très bonne, ton cœur ne sera pas dans le trouble. Jésus a dit, je m'en vais au Père. C'est pas une bonne nouvelle pour les disciples. Il disait, c'est quoi le problème? Je m'en vais au Père. Mais son esprit était tellement bon et glorieux, il a dit, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Et leur cœur ne s'est pas troublé. La même information. Et dans Nombre 13, nous avons cet exemple vital. Écoutez bien ça. Écrivez ce qui suit, s'il vous plaît. Écoutez bien ça. Ceux qui ont une influence sur votre manière de penser ont votre futur dans leurs mains. Si quelqu'un t'influence, c'est qu'il influence ton futur. Pas la peine d'être un prophète pour te dire aujourd'hui comment sera ton futur. Il me suffit de regarder ton présent. Si ton présent, malgré les problèmes, est rempli d'espérance, si ton cœur est proche de Dieu, si la joie de Dieu est ta force, je te garantis, ton futur est glorieux. Mais si par malheur, tu as commencé à écouter des rapports négatifs, si par malheur tu commences à croire à des gens qui ne t'aiment pas, si par malheur tu commences à écouter des hommes et des femmes qui ne sont pas proches de Dieu, je te garantis ton futur n'est pas glorieux. Mais si tu commences à comprendre le cœur de Dieu et que tu brises ce poison dans ta vie, brise la paresse, brise l'attente irréaliste, brise la nonchalance, brise le confort matérialiste et brise le rapport négatif. Vous allez voir comment c'est important ce matin. Tout le monde connaît bien l'histoire des espions, mais je vais le relire avec vous ce matin et je pense que dans cette saison spirituelle dans laquelle nous sommes, dans cette saison précise, vous allez apprendre des choses extraordinaires qui vont vous sauver un paquet de problèmes. Nombre 13. L'histoire est très simple. Moïse arrive avec le peuple d'Israël devant la terre promise et il leur dit, voilà ce qu'on va faire, on va envoyer des espions, parenthèse, avant d'attaquer la terre promise, et un rapport précis de quel genre d'ennemi tu vas faire face, comment l'État promise, où l'État promise, quelle taille, quelle grandeur, analyse la situation. La foi ne signifie pas l'aveuglement. La foi signifie aller entre les mains de Dieu. Alors écoutez ça, ils envoient les espions. Et les espions reviennent, et certains reviennent avec des grappes de raisin tellement énormes qu'ils sont deux à la portée, ils l'ont mis sur une lance, et sur chaque épaule, ils portent la lance comme ça à deux, tellement la grappe de raisin est immense. Imagine la grappe de raisin. Bref. Pareil pour les grenades, pareil pour les figues. Tellement lourde, à deux. 40 jours pour espionner la terre promise. 40 jours. Il la regarde, il la parcourt, il la vérifie, il analyse, il prend des photos. Email, Facebook, tout est fait. Ils reviennent et les 12 espions font leur compte rendu. C'est une chose que moi je regarde attentivement. Quand quelqu'un me fait un compte rendu, je vérifie l'esprit du compte rendu avant l'information. Si l'esprit est négatif, je ne lis pas. Parce que je sais que la personne a déjà baissé les bras. Écoutez ça, nombre 13, je parle de mon staff. Nombre 13, 27 nous dit: voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays. Malheureusement, ce fameux « oui, mais », je pense que les Israélites étaient français. Malheureusement, ces habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Et là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Là où certains ont vu des géants, Caleb avait vu les fruits. Même terre, même ville, même pays, même race, même nation, même situation, même époque, certains voient des fruits, d'autres voient des géants. Que vois-tu ce matin? Moi je vois des fruits. Moi je vois des fruits par milliers, de milliers, de milliers, de milliers, de milliers. Je vois des églises partout. Je vois des bars être fermés. Je vois des boîtes de nuit être fermées. Je vois la drogue reculer. Je vois les jeunes embrasser la vie avec Jésus-Christ. Parce que certains auront vu des fruits. Nombre 13, 30 nous dit: Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. James Jangala, ferme ta bouche, tu critiques trop, arrête. Il dit: allons, allons-y, montons là-bas et prenons le pays, nous aurons la victoire. J'aime ce genre de gars-là, j'aime les Caleb. Et voici un groupe d'hommes qui avaient la même chose, ils avaient la même mission. Verset 31, mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent: ce peuple est plus fort que nous. Ce peuple est plus fort que nous, nous ne pouvons pas l'attaquer. Ils n'avaient jamais combattu ce peuple. Ils ont pensé qu'eux sont trop forts pour nous. La puissance de la présomption. Croire des choses avant qu'elles soient vérifiées. Ils sont plus forts que nous. On ne peut pas attaquer. Ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment précis, ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Passé des années dans le désert où Dieu avait fait des miracles de folie. La nuée, la colonne de feu, la manne, le poulet grillé. Bref, je ne sais plus quel poisson et quel oiseau il y avait. Des cailles, ça. Nourri, logé, tout pendant 40 ans. Dieu fait des miracles, a coulé l'armée égyptienne. Dieu était présent pendant 40 ans, tous les jours. La terre promise est devant eux. Ils ont, écoutez ça, hein, c'est ce qui arrive lorsque les chrétiens viennent dans une église. Prennent les miracles sans comprendre le caractère de Dieu. Parce que le but d'un miracle est de révéler le caractère de Dieu. Mais le peuple d'Israël avait pris les miracles sans comprendre le caractère de Dieu, le cœur de Dieu. Si Dieu a été bon l'année dernière, il a été bon la semaine dernière, il a été bon aujourd'hui, il sera bon demain parce que Dieu ne change pas. Il est toujours bon, toujours puissant, toujours glorieux. Personne, rien ne peut empêcher le plan de Dieu, sauf ton manque de collaboration. Le rapport négatif va faire que tu ne vas pas collaborer avec Dieu. Et ici, ces gars-là, ils oublient ça. Écoutez ça, verset 32. Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Tu commences à critiquer, quand tu as un rapport négatif, tu commences à critiquer le plan de Dieu. Ils disent: le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants. Ce sont les géants de la famille d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. On l'a dit, on le redit aujourd'hui. Ta façon de te voir détermine la façon avec laquelle le diable te voit. Ta façon de te voir détermine la façon avec laquelle ton ennemi te voit. Si tu te vois avec les yeux de Christ, l'ennemi te verra avec les yeux de Christ. Et crois-moi, il n'osera jamais te toucher quand il voit Christ en toi. Mais si tu te vois comme une sauterelle, nul, misérable, perdant, fini, si ton passé est devenu ton Dieu, alors si tu crois à ce rapport négatif, tu ne pourras pas aller de l'avant. Mais ce matin, je suis venu vous dire que Dieu va briser cet esprit ce matin dans l'église Extravagance. Parce qu'il veut vous envoyer pour briser cet esprit à la Réunion. Parce que la Réunion est remplie d'esprits négatifs. La France pourrait s'appeler le pays du négatif. Tout est noir, tout n'est pas bien, tout est difficile. On va élire un président pour élire son opposition. Et l'opposition pour élire... Bref, c'est n'importe quoi, on est négatif. Mais Dieu veut élever une église puissante, positive, glorieuse, majestueuse, digne de louange. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est l'épouse de Christ. En parlant dans la nuit de prière hier soir, vendredi soir, pendant la nuit de prière, Dieu m'a dit une chose très forte. Il m'a dit... Je ne reviens pas pour mon église et quelques copains. Je reviens uniquement pour mon église. Tout ce que tu dois faire, tu dois le faire au travers de son église, pour son église, par son église et avec son église. Tout ce qu'on va faire en dehors de l'église n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne revient pas pour un gars qui n'a pas envie de faire l'église. Dieu revient pour son église, son épouse. Église. Écoutez ça, hein. Le rapport des 10 espions incrédules était négatif. Cela t'amène le doute et la peur. Écoutez ça, dès l'instant où tu commences à croire que les choses sont impossibles, c'est impossible. J'écris ici pour vous ce matin, et ça m'a bien fait réfléchir. Le doute, tout le monde dit le doute. Le doute, c'est déclarer à Dieu en face qu'il n'est pas Dieu, ou que s'il est Dieu, ce qu'il déclare, il n'est pas ce qu'il déclare être. Le doute, c'est de dire à Dieu qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas ce qu'il déclare être. Si Dieu dit « Je suis tout puissant » et que tu doutes, c'est que tu dis « Seigneur, tu n'es pas tout puissant ». Donc éradiquons le doute. Dans notre vie, je vous déclare ce matin haut et fort que cette salle-là, elle est trop petite. Alain, prépare le nouveau contrat. Est-ce de ma faute ? Non, de la vôtre. Vous venez tous les dimanches. Vous êtes passionné par Jésus. Ce matin, Dieu veut enlever, arracher de ton cœur toute peur, tout doute. Tout esprit négatif. Et je vous garantis, à la fin de cette réunion, dans quelques minutes, on va prier pour vous. On va éradiquer cela ensemble. Afin que votre vision soit clarifiée, pure, saine devant le trône de Dieu. Et vous puissiez à nouveau voir ce que Dieu attend de vous. Parce que moi, je me réjouis. Quand je vous vois, je me dis, voilà des bombes spirituelles en sommeil. Je vais déraciner le sommeil de ta vie. Je vais dégoupiller la grenade ce matin. Écoutez ça. Nombre 14, verset 1. Toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit à pleurer. Tous parlent contre Moïse et Aaron, ou Bruno et Steve. Et ils leur disent, « Ah, pourquoi, malheureux ? Est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ce désert ?» Les gars préfèrent mourir dans le monde. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il conduit en Canaan, là-bas, dans le mourir au combat? Les gars, même pas qu'on fait le combat, ils sont déjà morts. Imagine la tête des Français de là, qui sont en train de parler. On va prendre nos femmes et nos enfants. Et si nous revenions en Égypte, est-ce que cela ne voudrait pas mieux? Les gars disent, on veut, au lieu de se battre et aller prendre ta promise, je préfère le monde. Ils se disent entre eux, non moins notre chef et retournons en Égypte. Il y aura toujours un gars qui va baisser ses standards pour te plaire. Vous ne le trouverez pas ici. Les standards, on ne les baisse pas, on les augmente de semaine en semaine, de mois en mois. Parce qu'on va de gloire en gloire. On est disciples de Jésus-Christ, pas membre d'un club. Et Jésus cherche des hommes et des femmes qui croient en lui. Église, écoutez ça. Verset 7. Ensuite, ils disent à la communauté, le pays sur lequel nous sommes allés nous renseigner est un très très bon pays. Il déborde de lait et de miel. Si le Seigneur nous veut du bien, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous les vaincrons très vite. Ça, c'est bon ça, Caleb c'est un bon gars. En effet, les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Ça c'est fort. Mais le Seigneur lui est avec nous. N'ayez donc pas peur d'eux. Magnifique passage. Et là, le peuple d'Israël, content, heureux enfin d'apprendre une bonne nouvelle, décide de lapider Caleb. Versets 10 et 11. Toute la communauté, pas quelques-uns, toutes. Les gars, si tu veux servir Dieu, tu dois refuser le droit d'être populaire. Toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb en leur jetant des pierres. Mais au même moment, la gloire du Seigneur apparaît à tous les Israélites. C'est la tente de la rencontre. Verset 11, le Seigneur dit à Moïse, ce peuple va me rejeter jusqu'à quand? Pourtant, j'ai fait beaucoup d'actions puissantes au milieu d'eux. Est-ce qu'il refusera toujours de me faire confiance? Il nous suffirait de quelques jours pour gagner la réunion pour Jésus s'il y avait quelques disciples de folie pour le Seigneur. Quelques personnes qui disent, nous pouvons prendre la réunion pour Jésus. Nous pouvons prendre la France pour Jésus, prendre l'Europe pour Jésus, prendre la Terre pour Jésus, prendre Jupiter pour Jésus s'il le faut. Ça c'est une blague, ceux qui ne m'aiment pas vont me dire que je suis un faux prophète. Non, c'est une blague. Pour l'instant, on va s'arrêter jusqu'à la Terre. À l'écoute de ce rapport, les gars, Caleb dit on va prendre, Dieu est avec nous. Les gars disent que du bien, les gars veulent le tuer. Verset 24 nous dit, mais mon serviteur, Caleb, a agi autrement. Il m'a obéi sans hésiter. La phrase qui tue les chrétiens, souvent, c'est qu'on veut que Dieu nous fasse donner une parole, plus une preuve de la parole, plus une preuve de la preuve de la parole, plus une preuve de la preuve de la preuve de la preuve de la parole. Et après on rajoute, surtout comme c'est Dieu, Dieu ne me force jamais. Dieu ne m'oblige pas. Il comprend mon cœur. Si je n'ai pas envie, il comprendra. Non, il ne comprendra pas. Ça ne change pas son amour pour toi, mais il ne comprend pas que tu puisses te dire en face, Seigneur, peut-être si j'ai envie, je vais voir si je ressens. Tu rigoles ou quoi? Qui est sur le trône, toi ou moi? Ou lui? Qui dirige ta vie? Toi ou Dieu? Qui dirige la réunion? Alors là, magnifique passage. Pour cela, je le ferai entrer dans le pays sur lequel il est allé se renseigner et je donnerai cette région à ses enfants et aux enfants de leurs enfants. Un gars sécurise sa génération, génération après génération, parce qu'il a fait une seule chose, il a simplement obéi sans hésiter. Je ne vais pas en avoir fini, donnez-moi encore 3-4 jours et je finirai mon message. Mais écoutez ça. Ceux dont le cœur était plein de foi dirent, nous en sommes capables. Et ceux dont le cœur était plein de doutes dirent, nous allons mourir. Chacun obtint exactement ce qu'il avait déclaré. Ceux qui ont dit, nous en sommes capables, ont pris la terre. Ceux qui ont dit, on va mourir, sont morts. Écoute-toi parler en ce moment. Et tu auras une image exacte. Ce que tu auras. Écoute-toi parler en ce moment. Écoute-toi parler sur ta famille, ton couple, tes enfants, ton église et tes finances. Et tu vas exactement avoir une image parfaite en 3D, simultanément, stéréo et THX, exactement ce que tu auras. Ce matin, Dieu veut qu'on prie. Il veut qu'on prie ensemble parce que ce poison a assez duré dans l'île de la Réunion. Ce poison a assez duré dans votre vie. Et vous allez me dire, mais comment je peux faire? Il n'y a pas de culpabilité en Christ s'il y a repentance. 5 poisons ce matin. La paresse, la nonchalance, utopie, chimère, attente irréaliste, le confort matériel, ou le pire du pire, c'est celui-là, accepter le rapport négatif. Moi, je vous dis, Église, je n'ai jamais été aussi attaqué qu'en ce moment par des gens qui ne me connaissent même pas. Ils ne m'ont jamais rencontré, mais ils m'attaquent. Et cette semaine, en nuit de prière, je priais et j'en avais marre d'avoir ces emails d'attaques, de critiques, d'injures tout le temps. Bref. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Tu sais quoi, Seigneur? J'arrête de faire cas. Je les écoute plus. Et là, tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit, il était temps, mon fils. Arrête d'écouter des rapports négatifs. Écoute ce que Dieu dit, ce que sa parole enseigne. Il y a une question, même pour les hommes d'affaires dans la salle. À chaque fois que Dieu a fait grandir les finances dans le peuple d'Israël, à chaque fois, ou presque, c'était durant une famine. Chaque fois qu'il s'est manifesté puissamment, c'est lorsque les hommes ne pouvaient plus rien faire, ils se tournent vers Dieu et Dieu fait un miracle. Jésus, il faut qu'on paye les impôts. On n'a pas d'argent. Tiens, c'est bizarre, Steve. Jésus n'avait pas mis de côté pour les impôts. Et il a dit, va prendre un poisson. Jean-Henri Paul, avec son équipe d'extravagance de pêche, il m'a bêché des poissons, puis dedans, il y a des lingots d'or chaque fois. Il les met en stock. Il y a une chose qu'un frère m'a dit hier soir. Jean-Luc m'a dit ça vendredi soir. Dieu lui a dit une phrase, il ne s'est pas rendu compte que la phrase était pour moi et pour toute l'église. Tu as dit à Jean-Luc cette semaine, surtout ne me limite pas. Si tu limites Dieu, t'es cuit. Si tu te limites, tu limites Dieu. Il faut que tu puisses croire que Dieu veut se servir de toi, qu'il peut se servir de toi, et qu'avec toi, on va faire de très grandes choses.